Slim Boy. Vendredi 25 juin 2021. Echo Atlantique, Lagos, Nigeria. Le consul d'Italie à Lagos trébuche à chaque pas qui le rapproche des petits fours. Ni le Nigeria ni l'alcool ne lui réussissent. Hugo Darchini, tangue et titube, et lorsqu'un peu de champagne s'échappe de sa coupe pour tacher le parquet exotique de cette salle de réception disproportionnée de l'Echo Atlantic Hotel, il s'excuse d'une voix éraillée et avinée. Darchini s'approche de la consule de France, près du buffet, comme un naufragé d'une bouée. Il trouve sa robe citron hypnotique, avec ses spirales dorées qui rappellent la gidouille du Père Ubu. Depuis que dans les soirées nigérianes, les dashiki multicolores et les agbada yoruba traditionnels ont remplacé les tailleurs Versace et les smoking Armani, il faut en faire beaucoup si l'on ne veut pas être invisible. Les trois Nigérians qui discutaient avec la consule l'abandonnent dès qu'ils aperçoivent l'Italien comme s'il était pestiféré. Le regard du consul est aspiré par les tourbillons de la robe, il ressent une vague nausée. « Buonasera, Hélène. Vous avez une magnifique tenue tapa physique. Pata physique, excusez-moi, je n'ai bu que deux verres pourtant. Bonsoir Hugo. Je voulais prendre des nouvelles, j'ai pensé que vous seriez rentré en Italie après ce qui est arrivé. Je sais que votre fille est repartie à Sienne avec sa mère. » Hugo Darchini grimace un sourire, mais non, Hélène Charrier ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas se représenter les jours à négocier la restitution de sa fille de 14 ans, avec des ravisseurs camés à la mette, à ne pas oser imaginer ce que Renata vit, à craindre que ses tarés ne lui tranchent un doigt, ne lui coupent une oreille pour qu'il leur file plus vite ses 70 000 $. Il a confié l'argent à un consultant en sécurité, Taiwo, un type vraiment louche mais recommandé par un sous-directeur de la prospection pétrolière chez ENI. Il avait déjà joué l'intermédiaire, 2 ans plus tôt, quand le fils du gars avait été enlevé. L'échange avec les Aera Boys s'était fait avec des calaches, en bandoulière des deux côtés, dans une ruelle d'Apapa, près des docks, en face d'une église évangéliste où clignotait l'enseigne « Pray as you go ». C'était seulement 50 000 $ à l'époque. Tout augmente. Pourtant, de l'ambassadeur à Abuja, à la standardiste du consulat, tout le monde lui avait dit « Monsieur le consul, faites très attention à votre fille quand elle va au lycée international. Ici, les gens survivent avec 1 $ par jour, alors le kidnapping, c'est un business comme les autres, voire meilleur que les autres. » Mais ce poste à Lagos était un passage obligé s'il voulait décrocher Athènes dans 1 an ou 2. Maria avait insisté pour l'accompagner afin que Renata découvre l'Afrique. Un jour seulement, il n'a pas eu le courage d'interdire à sa fille de s'aventurer sans escorte armée hors de l'enceinte gardée de la maison. Un jour seulement. Elles ont bien fait de rentrer en Italie, soupire la consule de France. Parce qu'à Lagos, je peux vous garantir que c'est de pire en pire. L'électricité, c'est 30 minutes, et ça s'arrête d'un coup pour des heures. Je ne sais pas comment les gens conservent les aliments sans frigo. Au consulat, sans groupe électrogène, on ne pourrait pas travailler. Et sans citerne, il n'y aurait pas d'eau. Et tout est comme ça, Hugo. Tutto. Oui, tout est comme ça. Hugo le sait. Sa première vision de Lagos, du hublot à travers la nuée brune de pollution, ce furent des kilomètres carrés de taudis collés les uns aux autres. Des millions de toitures en tôle rouillée. Un quadrillage anarchique et aussi cet immense embouteillage coloré en jaune et noir de Doryfort par ces milliers de minibus si dangereux qu'on tente de les interdire en vain. Et chaque été, quand viennent les pluies torrentielles, que les rues se transforment en marais pestilentiels, Lagos rappelle à tous qu'elle signifie « lac » en portugais. Des décennies que la ville est abandonnée à elle-même, corrompue au point que les sociétés étrangères de travaux publics refusent tout contrat avec les mairies. Même l'État a déserté, et en 5 ans, aucun président nigérian ne s'est rendu à Lagos. Des histoires tragiques, Hugo en apprend une par jour. L'histoire de l'adolescente qui, pour accéder au seul robinet d'eau potable, traverse à pied la voie rapide, se fait écraser, et sur laquelle 10 véhicules roulent sans s'arrêter. L'histoire de l'homme frappé d'une crise d'épilepsie qui s'affale, c'était hier, Naruma, sa cuisinière, l'a vu de ses yeux vus, et que les passants laissent au sol secoué de spasmes, bavant, peut-être même qu'il est mort. L'histoire du vieillard du bidonville d'Oshidi, qui se jette sous les chenilles d'un bulldozer pour sauver trois vêtements sans que le bulle marque un temps d'arrêt. Si tu te crois fort, viens à Lagos et tu verras. La consule repose son verre, et elle, une grande jeune femme noire aux formes généreuses, en robe d'achiki pourpre qui s'approche et l'embrasse avec enthousiasme. « Ah, Hélène, je cherche la directrice de la Fashion Week Lagos, mais je ne sais pas où elle peut bien. Soyla, permettez-moi de vous présenter Ugo Darchini, mon homologue italien. Soyla Odiaka est notre attachée culturelle à Lagos depuis un an. » La femme sourit et serre la main molle que lui tend le consul. À l'entrée de la salle, des flashs crépitent, des cris retentissent. « Oh, c'est Slim Boy !» s'exclame l'attaché culturel. « Il donne un concert dans 2 heures sur Victoria Island. Vous connaissez Slim Boy, Hélène, bien sûr ?» Non, Hélène ne connaît pas. L'attaché culturel chante en riant. « Money, not worth it, worth it, worth it !» Mais, Hélène, vous n'allez jamais sur YouTube ? Il avait une notoriété locale il y a 3 ou 4 mois, mais là, c'est fou, avec sa chanson Yabba Girls, il a dépassé le milliard de vues en quelques semaines. Une explosion médiatique, comme le Coréen il y a 3 ans, vous voyez? Enfin, Slim Boy, monsieur le consul d'Italie. Ugo décline poliment. Désolé, madame l'attachée culturelle, je n'en ai jamais entendu parler non plus. Moi, c'est plutôt Verdi, Puccini, à la limite Paolo Conte. Cette fois, c'est Soyla qui, petite vengeance, mime l'ignorance. Yabba Girls, c'est un rythme très hip-hop, R&B, enfin plutôt afro-pop. C'est un hommage à sa mère qui tenait une boutique à Yabba dans le Fashion District. Elle les entraîne d'un geste. Alors, suivez-moi, on va le rejoindre. Il donne une conférence de presse. Le ministère a aidé à la production d'un de ses concerts à Paris en mars dernier. Les deux consuls suivent l'attaché culturel. Elle se fraye avec excitation une route dans la foule de plus en plus compacte jusqu'aux musiciens et sa compagne, jusqu'aux hurlements suraigus des fans et des paparazzi. « Slim Boy, Slim Boy, pour la photo, embrasse Swami !» L'empereur de la pop africaine, obéissant au photographe, embrasse sous les flashs la jeune actrice en s'agenouillant, étant aussi grand que sa toute nouvelle fiancée est petite. Il pose ainsi longuement avec docilité et complaisance. Le bonheur, c'est peut-être ça. Femi Ahmed Kaduna, alias Slim Boy, n'en revient toujours pas. Il y a 3 mois, sa notoriété se limitait au Little Lagos qu'est Peckham au sud de Londres, à la rigueur à West Chase, en banlieue de Houston. Ni le concert de Paris, ni celui de New York dans la foulée n'avaient été de grands succès. C'est dans la dernière heure du vol Paris-New York, après avoir cru qu'il allait y laisser sa peau et fait un large usage des sacs à vomi, que Slim Boy a eu l'idée de Yabba Girls. Une chanson qui raconterait avec des mots simples son attachement au quartier de son enfance, aux filles aiguilles et ciseaux. Une chanson qui chanterait la gratitude du petit Femi envers sa maman qui vendait des colliers sur le marché, qui priait chaque jour pour lui et qui venait de mourir. Ce serait une chanson douce, étonnante et mélodieuse. Et dans son vol de retour à Lagos, il a décidé que, pour une fois, son clip n'exhiberait pas de grosses cylindrées, de hors-bord, qu'on ne verrait pas de magnifiques filles à demi-nues dansant sur une plage, se trémoussant avec lui sur un lit dans une villa fastueuse, qu'il n'arborerait pas de chaînes en or, ne compterait pas ses dollars en souriant. Non, tout le monde faisait ça. Il avait envie d'autre chose. Alors on montrerait la dignité des gens ordinaires, des travailleuses fatiguées, des boutiquières, des tailleurs, des repasseurs à l'ouvrage, qui rient et dansent par 45 degrés à l'ombre avec seulement, comme tache de couleur, des bandes de tissu wax hollandais. Et lui, Slim Boy, vêtu de blanc, dans les rues sales, chanterait en anglais et en yoruba. Saluerait l'une puis l'autre, respectueux, humble même, comme la révérence du gamin qu'il a été à son enfance heureuse. Lui, Slim Boy, il casserait les codes du vibe afro-rap. Il éviterait l'autotune, la reverb, le delay et autres effets usés jusqu'à la corde. Et au-dessus de la mélodie, un saxophoniste viendrait soutenir en contre-champ et balancer doucement. Slim Boy avait même trouvé le musicien. C'était un vieux blanc squelettique aux cheveux rares, un virtuose québécois qui jouait parfois avec le rappeur canadien Drake. Il symboliserait le monde ancien qui passe le relais au nouveau. Ils ont tourné le clip dans les rues de Yaba en 2 jours, l'ont aussitôt mis en ligne et la chanson a fait le tour du monde. Il existe déjà 4 remixes de Yaba Girls, dont un par Franks. Slim Boy a été la surprise du Coachella Festival. Il a chanté aux côtés de Beyoncé, a fait un duo avec Eminem, il a été l'invité d'Oprah sur son show. Oui, le bonheur, c'est peut-être ça. Au retour d'une tournée anglaise en mai, il a malgré tout acheté une Lamborghini jaune et un gigantesque appartement au dernier étage d'une tour déco-atlantique, dont la première pierre n'est même pas posée. On ne peut pas indéfiniment chasser le naturel. De toute façon, c'est ça que les jeunes Nigériens veulent. Qu'on leur vende du rêve. Ils veulent boire du champagne dans la voiture de course. Ils veulent visiter le penthouse avec vue sur la mer. Ils veulent qu'on leur dise qu'ils ont beau se réveiller chaque matin dans leur baraque de tôle pourrie au milieu des pneus abandonnés et des rats crevés, la richesse et la gloire sont au coin de la rue. Oui, d'accord, pour 1 sur 1 million. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, puisque ce sera eux, forcément. Les 2 consuls et l'attaché culturel sont parvenus à s'approcher de l'estrade où se tient Slim Boy. Ils entendent mal les questions, mais le chanteur derrière son micro semble réfléchir et répond. Je veux espérer qu'Echo Atlantique sera une opportunité formidable pour Lagos et le Nigeria, et que toute la population qui vit autour tirera des bénéfices de la construction de la ville la plus ambitieuse d'Afrique. La consul de France hoche la tête, soupire. Cette théorie absurde du ruissellement a encore de beaux jours devant elle. Elle se tourne vers Darkini. Et justement, Hugo, que pensez-vous de cette horreur qu'on inaugure building après building en se gavant de petits fours? Le consul italien fait la moue. Oui, Echo Atlantique, cette île artificielle conquise sur l'océan, est une abomination. Ce n'est encore qu'un immense terrain vague, mais 200 000 hyper-riches de Lagos se réfugieront dans ces gratte-ciels étincelants, protégés de la violence de la mégalopole par des ponts gardés par des vigiles armés. Dans ce château fort, ils auront leur centrale électrique, leur station d'épuration, leur restaurant, leur palace, leur piscine, leur port de plaisance pour amarrer leur yacht. Le Dubaï africain, comme ils disent, reprend Hélène Charrier. Ils l'ont même surélevé de plusieurs mètres en prévision de la montée des eaux. Et du haut de ces buildings de luxe, on verra Lagos et ses 40 millions d'habitants se noyer, de Kouramo Beach au bidonville de Makoko, cet égout à ciel ouvert. Désolé, Hugo, je trouve ça monstrueux. Le pire, vous savez ce que c'est? C'est que c'est le monde de demain. On a jeté l'éponge. On tente de s'en tirer chacun de son côté, et pourtant personne ne sera sauvé. Ce n'est pas Lagos qui s'éloigne de la civilisation, c'est nous, nous tous, partout, qui nous approchons de Lagos. Vous exagérez, Hélène. J'aimerais tellement, Hugo. Soudain, dans la salle de conférence de presse, le bruit retombe. Un journaliste a posé une question à Slim Boy. Eze Onyedika, The Punch. Slim Boy, on dit que tu vas chanter une nouvelle chanson avec Dr. Fake? Est-ce que c'est une chanson en faveur de l'homosexualité? Tu es homosexuel? Un silence s'installe, solide comme de la brique. Si l'Afrique tout entière est un enfer pour les homosexuels, le Nigeria est son 9e cercle. Il y a la loi qui les menace de 14 années de prison. Il y a la police qui les pourchasse et leur extorque de l'argent. Il y a toute une population qui les rejette avec répugnance et détestation, abreuvée de haine et de rumeurs par les évêques et les prêtres évangélistes au sud et au nord par les musulmans qui appliquent la charia. Pas un jour sans que des jeunes soient assassinés, lynchés. Pas un jour sans qu'un chanteur, un acteur, un sportif, la terreur dans la voix, ne doivent se défendre d'être gays. Alors, oui, voici 3 mois, le très raffiné Dr. Fake, sans aller jusqu'à oser afficher son goût pour les hommes, a brisé le tabou avec son hit aux paroles bien anodines et pourtant ambiguës « Be yourself ». C'est beaucoup de questions, répond Slim Boy. Oui, je vais chanter une chanson avec Dr. Fake, elle s'appelle « Through Men, Tell the Truth ». Mais cela ne veut rien dire, une chanson en faveur de l'homosexualité. Quand je chante « My Nollywood Girl », c'est une chanson qui parle de l'amour, pas une chanson en faveur de l'hétérosexualité. Tu saisis la nuance? Et d'ailleurs, j'ai un scoop. Je viens d'apprendre, il y a quelques minutes, que j'enregistrerai très bientôt à Londres, avec Elton John. Son jet vient me chercher après-demain. Le journaliste insiste. « Mais est-ce que tu es gay, Slim Boy ?»« Tu veux un rendez-vous ?» Les journalistes rient. Slim Boy enfonce le clou. « Pourquoi ne poses-tu pas plutôt cette question à Swami ?» La jeune femme sourit obligeamment et aussitôt elle embrasse Slim Boy sur la bouche avec une voracité aussi jouée qu'enjouée. Sous les applaudissements des journalistes, le baiser ne s'éternise pas. Slim Boy y met fin avec galanterie et ajoute « Mais quand je lis que les gens d'un village ont tué à coups de pierre deux gamins de 16 ans après qu'un prédicateur les a dénoncés dans un prêche, simplement parce qu'ils se sont embrassés, j'affirme qu'il y a quelque chose à changer dans notre pays. » Swami et moi sommes tout à fait d'accord sur ce point. On ne peut forcer personne à être ce qu'il n'est pas. Il faut de la tolérance. Il faut de l'amour. Comment peut-on croire qu'on sera plus heureux en faisant du mal à d'autres? Il y a un brouhaha général, d'autres questions. Slim Boy se tourne vers son manager inquiet qui écourte la conférence de presse. Pourtant, si le chanteur s'écoutait, il raconterait le destin de Tom, son premier amant, quand il avait 15 ans. Tom brûlé vif devant lui par la multitude déchaînée, et sa propre fuite pieds nus la nuit, hagard, terrorisé, le visage en sang. Sa course dans Ibadan, poursuivie par la foule hostile et ses rencontres désormais si dangereuses et si brèves, et la détresse des gays du Nigeria et d'ailleurs en Afrique qui ont fini par fuir, par s'exiler. À jamais, dans ces pays froids de blancs où ils ont malgré tout le droit de respirer. Avec Dr. Fake, il va chanter « True men tell the truth ». Mais quelle ironie, quel mensonge, quelle trahison même. Slim Boy sait bien que pour continuer à vivre à la gosse, il a dû s'inventer une autre existence, jusqu'à passer ce pacte de connivence avec Swami, la star montante de Nollywood. La délicieuse Swami qui, bien sûr, aime autant les femmes que lui, les hommes. Soudain, Hélène Charrier remarque un grand homme noir en costume sombre. Il reste discrètement sur le côté à observer le jeune chanteur. Elle se tourne vers le consul italien et le désigne du menton. Ugo, le type qui pianote sur son portable, qui prend des photos, vous le voyez? Je vous présente l'attaché commercial britannique John Gray. Je ne parierai pas que c'est son vrai nom. En revanche, je suis certaine qu'il est des services britanniques. Et il n'est pas seul. Il y en a deux autres du staff de sécurité du consulat. Et surtout, une autre demi-douzaine de types bizarres que je n'ai jamais vus. MI6, je vous le dis. Vous avez l'œil, dites donc, Hélène. Vous ne seriez pas des services français, vous aussi? Mais non, Hugo, bien sûr que non. La preuve, si je l'étais, vous pensez bien que je vous dirais que non. Certes. Oh, Hélène, connaissez-vous l'histoire de l'espion américain en mission en URSS? Ça ne nous rajeunit pas. Et qui veut se dénoncer? Il se rend à la Loubianka. La quoi? La Loubianka, le siège du KGB à Moscou. Bref, il dit « Je suis un espion et je veux me rendre ». « Pour qui travaillez-vous ? » demande le type à l'accueil. « Les États-Unis d'Amérique. » « Bien, allez au bureau 2 ». L'espion américain va au bureau 2 et dit « Je suis un espion américain et je veux me rendre ». « Êtes-vous armé ?»« Oui, je suis armé. Allez au bureau 3, s'il vous plaît ». Il va au bureau 3 et dit « Je suis un espion américain, je suis armé et je veux me rendre. Êtes-vous en mission ?»« Oui, je suis en mission », commence à s'agacer l'agent américain. « Alors c'est au bureau 4. » Il va au bureau 4 et dit « Je suis un espion américain, je suis armé, je suis en mission et je veux me rendre. Vous êtes vraiment en mission ?»« Oui. » »« Alors allez la remplir, votre foutue mission, et foutez la paix aux gens qui bossent. » Hugo sourit à sa propre blague. Elle est très bien, concède Hélène, qui la connaissait puisqu'on la raconte aussi à la piscine, le siège du contre-espionnage français. Avant sa nomination comme consul à Lagos, elle a été les yeux de la Direction générale de la Sûreté du territoire au Kenya et en Afrique du Sud. Les barbouzes n'ont pas bougé d'un pas, ils n'ont Dieu que pour Slim Boy. Ça ne nous dit pas ce qu'ils fichent là. Et depuis quand l'intelligence service s'intéresse à l'afro-rap et au R&B?